Bon, le verdict est tombé hier dans ce procès très attendu. Un verdict donc attendu. Deux ex-étudiants du collège Maisonneuve qui forment un couple ont été déclarés non coupables sous pratiquement tous les chefs d'accusation sauf un. Et ça peut surprendre, j'en parle avec Fabrice de Pierrebourg. Fabrice, la conclusion, à partir de la preuve qui a été présentée, là, évidemment, c'est que la curiosité, s'intéresser à des discours extrémistes, regarder des vidéos extrémistes, c'est pas en soi un acte terroriste.
Non, puis c'est exactement ça, entre autres, le problème, on va dire, de ce dossier-là. C'est que si on se base, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires depuis hier et encore ce matin, mais si on se base exclusivement, Paul, sur ce qui a été démontré devant le jury, il n'y avait rien ou presque rien qui pouvait laisser croire qu'effectivement, un, ces jeunes avaient l'intention de quitter le Canada pour rejoindre le groupe armé État islamique, ce qui était un des chefs d'accusation, et que deux, ils étaient en train de fabriquer ce qui s'apparentait à une bombe artisanale. Si je reprends le premier, donc la tentative de quitter le Canada, une accusation qui aurait pu leur valoir 10 ans de prison, la seule chose que la couronne avait en main, c'est un billet d'avion qui était acheté d'ailleurs pour 2 semaines après l'arrestation, qui allait en Grèce. La prétention de la couronne, c'est de dire, oui, mais on le sait tous, dans les cas similaires, on s'en va vers une destination touristique avec un billet aller-retour pour pas éveiller les soupçons, puis après de là, on saute vers la Syrie ou l'Irak. Or, la défense avait réussi à démontrer que dans les recherches Internet, des jeunes, au même moment où ils cherchaient des billets d'avion pour la Grèce, il y avait aussi des recherches genre Montréal-Mexique, Montréal-Cuba, et l'analyse de la GRC avait dit oui, mais on n'a pas sorti ça devant la cour parce qu'on pensait pas que c'était pertinent pour nous. La Grèce, c'était un transit. Alors tout a été comme ça. Sur la bombe artisanale, donc quelque chose qui aurait pu leur valoir la perpétuité, oui, on avait une recette qui était écrite à la main, ça c'est très troublant, hein. Une recette là, c'est plus que de la curiosité, la recette exacte telle qu'elle avait été diffusée par Al-Qaïda en péninsule arabique au début des années 2010, la bombe ce qu'on appelle type Boston, en référence à l'attentat de Boston. Alors oui, on avait certains composants, mais qui sont des composants du commerce, Paul? C'est des choses qu'on achète à Dollarama, il y en avait pour à peu près 15 dollars. La cocotte minute, elle était chez un des parents du couple, donc tout était éparpillé comme ça. Alors la couronne dit oui, mais regardez le portrait dans son ensemble et non pas les choses séparément. Bah manifestement, le doute l'a emporté dans l'esprit du jury, c'est pour ça qu'au final, on se retrouve avec juste une petite accusation pour Mehdi Djamali, qui finalement, le temps passé en prison jusqu'à présent a fait en sorte qu'il est sorti libre hier, tout comme Sabrine German.
Mais Fabrice, quand on regarde ça, là, ça veut dire que je peux m'acheter les ingrédients nécessaires à une bombe, je peux avoir la recette, je peux fréquenter des sites extrémistes, je peux m'acheter un billet d'avion, mais malgré tout ça, il n'y a rien de terroriste là-dedans.
Il n'y avait rien de concret, parce que, Paul, si on prend l'exemple de quitter le Canada, Ismaël Habib, lui, il a été condamné, on s'en souvient, il y a quelques semaines pour ça. Mais pourquoi? Parce que la poursuite avait en main un enregistrement incriminant, on s'en souviendra, fait devant un agent d'infiltration de la GRC. Habib avait dit « oui, je veux aller en Syrie, etc., retrouver ma femme, blablabla ». Le jeune ado de 15 ans a été condamné lui aussi à une peine pour mineur, mais pourquoi? Parce qu'il y avait eu un achat, tentative d'achat d'un billet d'avion pour Gaziantep, une ville du sud de la Turquie, qui était à l'époque un véritable entonnoir pour aller en Syrie. Donc il y avait des choses qui étaient beaucoup plus faciles à prouver. La recette, oui, il y avait la recette, mais moi, ce qu'on m'a dit ces dernières semaines dans les couloirs de palais justice, là, dans le milieu des enquêteurs, etc., c'est que peut-être il y a eu une précipitation. Les jeunes ont été arrêtés très vite, 4 jours après la dénonciation de leur sœur, et ils ont été interrogés entre-temps. Il y en a qui se demandent si ils avaient pris plus le temps, s'ils avaient été chercher un mandat pour on veut dire, mettre des caméras et des micros dans l'appartement. Peut-être que ils auraient pu, mais ça c'est hypothétique, surprendre les jeunes en train de commencer à assembler leur engin explosif, et là ils auraient quelque chose. Mais apparemment, en haut lieu, on s'est dit, il faut interrompre ça maintenant, il faut les arrêter maintenant.
Ok, mais
ça c'est des suppositions là.
Oui, mais là l'autre partie qui est majeure là, le fait que des proches, donc sœurs, membres de la famille, des amis, aient averti les policiers que des témoins n'ont pas été entendus, qu'une partie de cette preuve n'a pas été présenté aux membres du jury parce que les gens ont changé d'idée, parce que il y a même, je pense que c'est la sœur là, qui
oui, était une des sœurs,
qui a été reconnue coupable là, pour entrave. Ça aurait probablement changé la donne, ça aussi. Là.
Ben oui, mais c'est sûr, parce que ce qu'on dit, c'est les deux sœurs puis les amis, soit lors de rencontres avec les policiers après la dénonciation, soit lors de l'enquête préliminaire, c'est qu'effectivement, les deux jeunes avaient tenu des propos plus que troublants. C'était si on peut pas partir là-bas, ben on fera quelque chose ici. Ou le Mehdi Djamali aurait dit qu'il soutenait l'État islamique, qui voulait partir là-bas. Mais tout ça reste aujourd'hui des suppositions. Ça n'a jamais été débattu devant la cour et devant le tribunal. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ragent en écoutant ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la preuve qui a été déposée devant le jury qui fait foi, quoi.
OK. Et juste préciser, donc, dans le cas de Jamali, ça veut dire que lui a été reconnu coupable sur un chef d'accusation.
Mineur. Oui.
Mineur. Mais il y a quand même des conditions à respecter.
Tous les deux, puis des conditions très intéressantes, Paul, évidemment, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont été arrêtés à l'époque en vertu d'un article 810, un engagement. Il y a des individus déjà dans le passé suspectés de vouloir partir qui ont eu ça. Ça leur a valu d'ailleurs un bracelet électronique à la cheville. Donc cette procédure-là continue et vous avez des conditions et elle sera entendue en janvier ou février. Et parmi les conditions, ne pas fréquenter évidemment des sites de propagande, tout ce qui est terroriste, ne pas quitter le Québec, mais ils ne doivent pas se rendre à la mosquée qui est présidée par Adil Sharkawi. Hier, la procureure de la Couronne s'est fait questionner là-dessus par les journalistes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en dire plus sur cette raison. Mais pendant l'audience, pendant les procédures, à deux reprises, des agents de la GRC ont mentionné le nom du centre Assa Abba et d'Adil Sharkawi en disant que c'était un nom qui revenait souvent dans leurs enquêtes, mais sans en dire plus, quoi.
OK. OK.
Voilà.
Merci, Fabrice. Bonne journée.
De rien.
Pourquoi celui-là en particulier? Il y a en plein de centres à Montréal, il y a plein de mosquées. Pourquoi celle-là? Je sais pas. On va aller retrouver Marc pour suivre l'évolution de l'heure de pointe.